Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, Géraldine de Maury, des vigilances orages aujourd'hui.
Oui, les vigilances canicules, c'est terminé, mais déjà les vigilances orages qui arrivent, qui vont concerner l'Isère, la Drôme, l'Ardèche pour un début d'événement à 15h, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment de gros orages sur tout le sud-est. À partir de 15h jusqu'à minuit, ces fortes averses orageuses qui vont se succéder avec de gros cumuls de pluie, un risque de grosses grêles. C'est plus calme sur le reste du pays, les averses seront beaucoup plus ponctuelles. Et puis les températures qui baissent partout, 22 degrés à Lille ou Brest cet après-midi, 25 à Paris, il fera 26 à Bordeaux, 27 à Lyon, Toulouse, 30 à Marseille, 32 à Perpignan. Et je vous alerte également sur cette vigilance orange pour la Corse. Ça concernera le département, les deux départements corse, demain matin de 6h à 9h avec de violentes rafales de vent.
Très bon réveil avec RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce serait une grande première. Un vaccin contre le cancer de la peau pourrait bientôt voir le jour.
Les résultats des essais sont encourageants. Un traitement pour empêcher la récidive des mélanomes. On va tout vous expliquer. Elle était déjà colossale. La liste des victimes de Joël Le Squarnec s'allonge. Une information judiciaire ouverte contre l'ancien chirurgien déjà condamné l'an dernier. Et puis attention aux orages. Vigilance orange dans 3 départements et à cause des sols très sec, plusieurs communes redoutent déjà des inondations.
Une avancée majeure aux yeux des scientifiques, c'était la une ce matin. C'est surtout un grand espoir pour les patients atteints d'un cancer de la peau.
De l'espoir suscité par cette annonce hier des laboratoires Merck et Moderna, dont les essais cliniques d'un nouveau vaccin sont encourageants. Annonce qui a d'ailleurs fait bondir leur action à Wall Street. Romain Houck, c'est un traitement sur mesure pour les patients déjà atteints du cancer de la peau.
Oui, des patients à un stade avancé du mélanome, une des formes les plus mortelles du cancer de la peau. Ce vaccin fonctionne avec la technologie de l'ARN messager, ça vous dit forcément quelque chose. Souvenez-vous, c'est cette même technologie qui avait servi à la réalisation des vaccins contre le Covid-19. Alors, des tests cliniques ont été réalisés sur 1100 patients avec de très bons résultats, explique Jean-François Aunard, chirurgien à l'Institut spécialisé Gustave Roussy.
Ce qui est annoncé est forcément très encourageant, un vaccin ARN messager, avec a priori des résultats qui sont encourageants sur ce qui a été évalué, à savoir l'absence de récidive et une diminution du risque de lésions secondaires, de métastases.
Mais ce traitement est très pointu, il doit être conçu sur mesure pour chaque patient. L'idée, c'est d'entraîner le système immunitaire à repérer et attaquer les cellules cancéreuses spécifiques de chaque malade. Un vaccin personnalisé, en quelque sorte, qui suscite beaucoup d'espoir chez Pascale Benaxas, présidente de France Asso Cancer et Peau.
C'est formidable, les résultats sont extraordinaires, mais ce traitement-là, c'est de la haute voltige, il ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est vraiment un travail de précision, donc derrière ça, il y a un coût.
En France, d'autres tests cliniques doivent encore être réalisés. Selon les associations, le vaccin pourrait être disponible chez nous d'ici environ un an et demi.
Romain Houg pour RMC. Encore de nouvelles victimes de Joël Le Squarnec. Une information judiciaire ouverte contre l'ancien chirurgien déjà condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour près de 300 viols et agressions sexuelles, en majorité sur des mineurs endormis au moment des faits. Julie Brault, l'homme de 75 ans, est aujourd'hui suspecté de 10 nouveaux viols et 40 agressions sexuelles.
Oui, au total, le parquet a recensé 48 nouvelles victimes de Joël Le Squarnec ayant subi des viols et des agressions sexuelles entre 1987 et 2017, des faits non prescrits et pour beaucoup commis sur des mineurs. Certaines victimes avaient déjà été identifiées lors du procès de l'ancien chirurgien en 2025 et de l'analyse de ses carnets noirs dans lesquels il racontait comment il avait agressé sexuellement près de 300 patients, la plupart endormis. Un nouveau drame, sans surprise, déplore Manon Lemoine, porte-parole du collectif des victimes de Le Squarnec.
On sait qu'on est sur un homme doté d'une perversion assez extrême. On n'en sera jamais arrivé au bout. Déjà, il y a deux années de carnet qui ont été supprimés. Donc, on n'aura jamais la preuve en soi sur ces deux années-là des victimes potentielles qu'il aurait pu faire. Et à côté, il y aura des victimes qu'on ne retrouvera jamais, pour sûr.
Désormais, le juge d'instruction chargé de l'enquête devrait entendre les 48 victimes identifiées pour ensuite notamment confronter Joël Le Squarnec à leur témoignage avant de fixer la date d'un potentiel nouveau procès.
Julie Brault, service police-justice d'RMC. Après les cyberattaques, le gouvernement se retrousse les manches. Sébastien Lecornu demande la création d'une unité cyber pour intervenir rapidement en cas de piratage, comme viennent d'en connaître le Fisc et l'Éducation nationale. Le Premier ministre a adressé un courrier en ce sens au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, dans lequel il assume que peu de ministères sont au niveau requis. L'État est 100% responsable et doit être sanctionné, assume quant à lui Philippe Latombe, le député MoDem de Vendée et membre de la CNIL, a réagi ce matin sur RMC.
Je pense qu'il doit y avoir une responsabilité qui n'est pas simplement que politique, mais aussi administrative. Et donc, il doit y avoir, comme on le ferait pour une entreprise privée, comme ça se passe dans le secteur privé, qu'il y ait des responsabilités qui soient trouvées au sein de l'administration pour ne pas avoir écouté depuis des années l'ensemble des personnes qui leur dit chaque fois qu'il y a des tests d'intrusion, qu'il y a des failles et qu'ils ne les ont pas corrigées et que ces failles ont été utilisées par des attaques qui sont des attaques, je le dis, des attaques de faible ampleur. C'est aussi de changer...
Philippe Latombe, je suis désolé de vous poser la question en ces termes, mais pour le dire clairement, ils s'en moquent ou ils sont mauvais?
Les deux, mon capitaine.
Autre réaction sur RMC ce matin, celle de Mourad Batik, avocat de la famille de Sonia Bellina. Il promet de poursuivre les auteurs de messages violents et insultants, messages haineux nombreux après la mort de cette influenceuse de 29 ans. C'est bien son corps qui a été retrouvé dans des vignes près de Nîmes, confirme le parquet. Deux hommes ont été interpellés. Un nouvel incendie en Lozère, 250 hectares parcourus par les flammes, un pompier blessé et les habitants de deux hameaux qui ont dû évacuer à Prévenchère. C'est à quelques kilomètres de Mende. Des orages attendus aujourd'hui. Vigilance orange en Isère, dans la Drôme et en Ardèche. Et avec la pluie, ce sont les inondations que l'on redoute après des canicules et des incendies à répétition. Anna Jojard, c'est ce qui inquiète notamment à Corrence, dans le Var, commune durement touchée par les flammes.
Sous nos pieds, le sol est instable. Chaque pas crée un nuage de poussière.
Là, on est concrètement sur des particules qui sont extrêmement fines, de la cendre, un petit peu de terre, mais surtout du bois brûlé, en fait.
Olivier est maraîcher à Corrence. Son exploitation est en contrebas de cette colline calcinée.
Et ces éléments-là, en fait, s'ils ravinent, on va se retrouver à les avoir à dégringoler toute la colline et faire vraiment des torrents de boue. Et le problème, il est là.
Alors, il surveille en permanence la météo, craignant la moindre pluie, tout en s'efforçant d'installer des branchages couchés entre le reste des troncs.
Si j'en fais suffisamment sur la colline, il y a des chances que ça retienne par endroits les flux d'eau et que ça limite les fortes érosions ou la force de l'eau qui arriverait donc en contrebas. Parce qu'encore une fois, juste en contrebas, il y a ma propriété.
Le risque d'inondation est plus élevé sur ce sol incendié. Françoise Vimeux est climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement.
Quand on a de la végétation et de la matière organique qui brûle, on a des composés chimiques qui sont libérés, qui forment une sorte de cire et ça rend imperméable une partie des sols. Et quand on n'a plus de végétation, on n'a plus de racines en fait pour stabiliser la terre.
Ce qui, en cas de pluie, peut entraîner des coulées de terre et exceptionnellement des glissements de terrain.
Il est 8h07 et c'est un peu la rentrée politique. Les élus de gauche se retrouvent en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, en Isère pour les écologistes et dans la Drôme pour la France Insoumise, dont les militants se rassemblent chaque été près de Valence. Ils doivent être 6000 pour ces universités d'été, avec en point d'orgue le discours de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera dimanche. Le leader insoumis qui s'est fait bien discret pendant les vacances, Cyprien Pézeril.
Quelques tweets, certes, pour réagir à l'actualité, mais cet été, Jean-Luc Mélenchon est surtout resté en retrait dans sa résidence secondaire du Loiret. Il a lu, il a jardiné, du calme, parce qu'à 75 ans, l'enjeu sera aussi pour lui de tenir la durée de la bataille présidentielle. Un temps envisagé, par exemple, un déplacement en Nouvelle-Calédonie à 24 heures de vol de Paris a été reporté sine die. Il fait attention, raconte un de ses confidents, il ne boit plus de bière, il ne mange que des entrées. L'idée aussi, c'est de ne pas vider tout de suite les caisses de campagne. On ne veut pas confondre vitesse et précipitation. Temporise un dirigeant insoumis. Alors Jean-Luc Mélenchon ne va pas pour autant disparaître. Après la rentrée de son mouvement, il ira notamment à la Braderie de Lille et à la Fête de l'Humanité. Il veut incarner le vote utile à gauche, alors que les autres partis sont enlisés dans leur division, avec l'espoir que des écologistes, voire des socialistes, se rangent rapidement derrière lui.
Cyprien Pézeril, service politique d'RMC. Plus de Légion d'honneur pendant 10 ans pour François Fillon. Décret publié ce matin dans le journal officiel. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle condamné il y a plus d'un an dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon.
Le sport, les sports, Clara, avec d'abord le retour de Victor Wembanyama en équipe de France de basket.
Oui, ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. Et les JO de Paris, les Français seront à Belgrade ce soir pour affronter la Serbie en match amical. Et le joueur des Spurs a beaucoup évolué. Depuis son dernier match en bleu, Léna Marjac.
22 ans et déjà l'étoffe d'un immense champion. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2024 et depuis 2 saisons jouées aux États-Unis et surtout cette finale NBA avec les Spurs cette année. Victor Wembanyama, en 2 ans, a changé de dimension.
Je me rends compte que j'ai des avis beaucoup plus tranchés sur la tactique parce que j'ai vu plus de choses tout simplement depuis. En 2 ans, j'ai joué plus de 100 matchs. Ça commence à monter au compteur.
Son compteur grimpe aussi avec les Bleus puisque Victor sera pour la première fois ce soir le capitaine de l'équipe de France face à la Serbie en match amical. Frédéric Fautou, le sélectionneur sélectionneur.
Je le sens très à l'aise en tout cas avec nous tous. Je pense que tous les joueurs ont envie de jouer avec lui parce que c'est effectivement un joueur de classe mondiale plus.
Mais quand un joueur de classe mondiale comme Wemby, aussi puissant, aussi imposant, revient avec les Bleus, il faut réussir à retrouver des automatismes. Mathieu Strasel, le meneur des Bleus, n'a pas joué avec Victor depuis les Jeux de Paris.
Le but c'est que tout le monde s'y retrouve, tout le monde arrive à jouer les uns avec les autres, qu'on crée des liens et de l'alchimie sur le terrain parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin pour performer.
Performer déjà ce soir à Belgrade, avant dimanche à Orléans, un deuxième match amical face à la Serbie pour des retrouvailles entre Victor Wembanyama et le public français.
Et puis dans quelques jours, le retour de la Ligue 1, le match de dimanche soir, ce sera PSG-Rennes et il ne se jouera pas au Parc des Princes comme prévu, mais bien au Roizen Park à Rennes à cause d'un état très dégradé de la pelouse parisienne. La billetterie ouvre aujourd'hui à 14h. Et puis le prince Harry is coming home. Son épouse Meghan et lui vont revenir au Royaume-Uni, ils vont revenir s'installer, c'est ce qu'annoncent des médias britanniques, notamment le Daily Mail, eux qui vivaient en Californie, aux États-Unis depuis leur rupture avec la famille royale il y a 6 ans.
Merci. Comme ça, c'est complet. Merci Clara Gabillet. C'était le journal de 8h en direct sur RMC. Jean-Michel est en ligne avec nous dans le 15e arrondissement de Paris. Salut Jean-Michel.
Oui, bonjour l'équipe.
Comment vous n'êtes pas très loin de nous là, hein, vous savez.
Je pourrais presque vous thérapier parler dans le studio.
Vous auriez presque pu venir expliquer finalement que vous avez toujours voté écolo. On pose la question ce matin avec les canicules, les sécheresses, l'été catastrophique qu'on a connu. Les incendies aussi, bien sûr. Est-ce que ça pourrait changer votre vote l'année prochaine? Vous dites j'ai toujours voté écolo, moi.
C'est ce que je disais aux camarades du Standard, c'est que je votais écolo sans le savoir en fait, parce que moi je suis revenu à la politique en 2012 avec la France, avec le Front de Gauche à l'époque et Mélenchon, ouais. Et j'ai continué, on va dire, en compagnon de route avec la France Insoumise maintenant.
Et là, ça ne bouge pas pour vous, 2027, vous êtes sur le même vote?
Ah oui, bien sûr, j'ai pas de raison de changer. Surtout qu'en plus, on a amélioré le programme pour qu'il y ait encore plus de solutions pour le pays. Donc,
Vous êtes engagé, vous êtes militant, Jean-Michel.
Ouais,
parce que vous avez dit, on a amélioré le programme, pardon.
Alors, j'ai été très militant dans ma jeunesse. J'ai eu une période de 10 ans où j'ai tout laissé tomber. Et c'est en 2012, avec la création du Front de Gauche, que je suis revenu à la politique.
D'accord, d'accord. Et Jean-Michel, pour vous, il n'y a pas de débat. C'est pas l'été qu'on vient de connaître qui change votre vote, cela dit, pour être dans le débat qu'on avait. Alors, vous entendez aussi les autres, c'est intéressant, vous êtes militant, en tout cas, engagé LFI. Vous entendez les autres débats, on va parler des Verts tout à l'heure, avec cette scission, est-ce qu'il faut plus aller vers une tendance alliance vers Glucksmann, plus aller vers Mélenchon?
Bah, moi, les Verts, je suis prêt à leur ouvrir les bras. Moi, j'ai fait la campagne, par exemple, pour les législatives dans mon arrondissement pour une candidate verte. Et ça s'est très bien passé.
Pour vous, c'est naturel, le lien. Je poserai la question à Delphine Bateau, qui est à 8h40 sur RMC et RMC Story tout à l'heure, qui essaye, elle, de proposer une autre voie écolo. Mais merci, Jean-Michel, d'avoir répondu à notre question. Juste avant l'interview politique tout à l'heure, vous entendrez le choix de la rédaction, justement, avec des Français qui, eux, sont dans cette réflexion. Vous, c'est déjà décidé, Jean-Michel, des Français qui sont dans ce genre de réflexion. Merci, Jean-Michel.
Si, au revoir, à bientôt.
À bientôt, 8h13 sur RMC. Faut-il interdire la chasse dans les territoires ravagés par les incendies? Hors de question pour Laurent Faudon, président de la Fédération départementale des chasseurs du Var. Il nous explique pourquoi dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h15 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Pas de fusil sur les cendres. Plusieurs associations réclament le report de l'ouverture de la chasse avec une pétition qui dépasse les 450 000 signatures. Dans le Var, le département ravagé par le feu du Gros Bessillon, la préfecture prépare un arrêté qui interdit la chasse dans les secteurs boisés brûlés, mais avec une exception notable pour le sanglier. Bonjour Laurent Faudon.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, vous êtes le président de la Fédération départementale des chasseurs du Var. La préfecture qui prépare cet arrêté d'interdiction dans les secteurs boisés incendiés, vous l'acceptez?
Ah mais tout à fait, parce qu'on a négocié avec monsieur le préfet, on a eu rendez-vous ensemble pour exprès travailler sur cet arrêté. Et c'est en toute logique que l'arrêté va sortir, comme on avait fait en 2021 sur le feu des morts.
Alors l'objectif, je le précise quand même, favoriser le repeuplement du petit gibier dans les zones brûlées. L'arrêté préfectoral en préparation, il épargne la battue au sanglier. Est-ce que c'est une victoire pour vous? Et puis peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi.
Alors c'est pas que c'est une victoire, c'est que évidemment on est obligé de défendre les cultures qui sont sont en bordure des zones incendiées. Et donc, on est obligé, des fois, de faire des battues. Et parce que les sangliers ou les chevreuils, quand le feu a passé, eh ben, on remarque que, ils reprennent leur habitude d'aller aux endroits où ils étaient d'habitude. Donc, ils vont dans les zones incendiées.
Et là, vous aurez le droit d'abattre des chevreuils?
Alors, on pourra, alors, les chevreuils en ouverture générale, mais là, en pré-ouverture, s'il y a des dégâts, on pourra prélever des sangliers.
Alors, vous dites que l'été a été catastrophique, et ça, on ne peut que le constater, chez vous dans le Var notamment, mais vous refusez tout report des dates pour la chasse, pour ce débat, disons plus au niveau national. C'est pas contradictoire ?
Ah non, pas du tout. Nous déjà, on a une mission de service public à rendre à Monsieur le Préfet, d'accord, qu'il faut qu'on diminue chaque fois le cheptel du grand gibier pour diminuer évidemment les dégâts, parce que je vous rappelle que on est le seul pays dans le monde à payer des dégâts de grand gibier. Dans les autres pays, c'est l'État qui paye souvent.
Il faut le préciser, s'il y a des dégâts dus au gros gibier, ce sont les fédérations de chasse qui indemnisent les agriculteurs.
Exactement. Et oui. Nous, le Var, en 2 ans, on a payé plus de 3 millions d'euros. Donc ça met complètement à bas une fédération départementale.
C'est pour ça que vous dites, s'ils ne veulent pas qu'on chasse, qu'ils nous fassent un chèque.
Exactement. S'ils veulent plus qu'on chasse en pré-ouverture, c'est pas un problème. Ils nous font un chèque avec beaucoup de zéros et on restera à la maison. Ça, c'est pas un souci. Mais bon, je pense que le chèque, ils sont pas encore prêts de le faire.
Élise, en tout cas, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a jamais d'argent.
Oui, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont de l'argent pour nous attaquer des fois sur les arrêtés que sortent le ministère ou quoi. Donc, de l'argent, ils en ont.
Mais Élise, on a beaucoup de réactions depuis très tôt ce matin sur ce débat. Est-ce qu'on peut rouvrir la saison de la chasse normalement dans les zones sinistrées par les incendies ?
Alors, beaucoup de réactions pour nous dire oui, nous expliquer que les chasseurs connaissent bien le terrain. Mais on a quelques signataires de la fameuse pétition « Pas de fusil sur les cendres », notamment Christian qui vit dans le Var et qui nous a écrit ce matin.
Qui lui est signataire.
Est signataire, tout à fait. Ouais.
Et il est varois comme vous. Vous pouvez comprendre, Laurent Faudon, quand même. Il y a quand même cette idée qu'on a une nature qui est affaiblie, qui est fatiguée par cet été. Il y avait quand même cette idée de la préserver, de peut-être préserver ces espèces. Ce sont pas des arguments que vous entendez.
Mais c'est pas. Il faut pas tout mélanger. Dans les zones incendiées, évidemment, on ne chassera pas. C'est interdit pendant un an le petit gibier. D'accord, mais par contre, il y aura une dérogation s'il y a des problèmes de dégâts. On ira faire une battue, on n'ira pas faire 1000 battues et on ne chassera pas dans les zones incendiées.
Oui, mais vous parlez du petit gibier, le gros gibier, lui, oui.
Le gibier, on ne pourra pas chasser pendant un an, on ne chasse pas. Peut-être renouvelable pendant une deuxième année.
Oui.
Voilà. On a attendu. Nous, les chasseurs, on a attendu personne. Nous, les chasseurs, ça fait des années qu'on travaille sur le petit gibier, que malheureusement, quand il y a des zones incendiées, eh ben, on se met de suite au travail, on retrousse les manches et on va travailler pour aménager le territoire, pour remettre du petit gibier, pour mettre des trous d'eau, parce que l'été, on le voit de plus en plus, la faune a besoin de boire, et donc on met évidemment de l'eau pour qu'ils boivent.
Élise ?
Irresponsable, nous écrit à l'instant Élodie sur le WhatsApp RMC. Élodie qui ne comprend pas que les chasseurs ne fassent pas comme les pêcheurs, à savoir poser les fusils et les cannes à pêche.
C'est le débat qu'on avait ce matin. Je me permets, vous avez Laurent Faudon, très tôt ce matin, on était avec la Fédération de pêche. C'est un hasard de l'actualité, c'est pas fait exprès de vous mettre tous les deux ce matin. Mais les pêcheurs en ce moment, comme les cours d'eau sont au plus bas, ont choisi de préserver les poissons, de ne pas pêcher, ils entretiennent les cours d'eau. Ça donne l'impression, pour qui n'est ni pêcheur ni chasseur, qu'il y a deux approches très différente du respect de la nature.
Ah ben, je pense que les chasseurs, ils ont un grand respect de la nature, comme les pêcheurs, exactement. Mais nous, l'ouverture générale se fait le deuxième dimanche de septembre, donc d'ici là, on pourra voir. Il reste encore quasiment un mois de voir. Donc là, ils annoncent dès aujourd'hui de la pluie dans le Var. Donc s'il pleut, ben, ça va revenir doucement, et donc voilà, il faudra voir. C'est sûr que s'il pleut pas jusqu'à, on va dire...
Mais Laurent Faudon, dites-nous franchement, vous êtes sur le terrain. Quel est l'état de la faune, là, en ce moment? Quel est l'état de la faune petit gros gibier dans votre département?
Ah ben, fatigué. Pour le moment, ça se passe. Elle n'est pas fatiguée, ça se passe pas mal parce que nous, on donne de l'eau. On continue à donner de l'eau dans la forêt, donc il n'y a pas de problème. Ils ont de quoi boire.
Laurent Faudon, merci beaucoup. Président de la Fédération départementale des chasseurs du Var, ce débat, on continue de l'avoir si vous le souhaitez au 3216 sur le WhatsApp RMC. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Il est 8h21. C'est l'heure de l'économie avec Pierre Rondeau. Rebonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
L'autorité des marchés financiers qui met en garde contre les pratiques trompeuses d'une plateforme de trading qui s'appelle BitKelTrade.
BitKelTrade, hein, oui. Hein. Faites bien attention si vous tombez là-dessus sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont très présents sur TikTok, Instagram ou X. C'est la nouvelle mode, le trading et les placements financiers. Tout le monde parie sur des produits financiers, achète des actions, des ETF ou d'autres crypto-monnaies dans le but d'un enrichissement facile et accéléré. Malheureusement, certains cherchent à profiter de ce doux rêve pour vous faire n'importe quoi et littéralement vous arnaquer. C'est le cas de la plateforme BitKelTrade. Si vous la voyez, fuyez. Elle vient d'être inscrite sur la liste noire de l'AMF, l'autorité des marchés financiers.
Alors qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
L'utilisation illégale avec l'aide de l'IA, des identités visuelles et le nom des médias français pour faire de la promotion. En gros, le site utilise l'image de TF1, BFM ou La Tribune pour faire la publicité de produits financiers obscurs, promettant des rendements très importants et attirer de la clientèle via les réseaux. Imaginez, c'est comme s'il diffusait un article siglé RMC avec vous, Mathieu, et moi, et nous ferions l'apologie d'une crypto-monnaie inconnue et garantirions des taux d'intérêt très intéressant, supérieur à 5%. Parce que les victimes verraient RMC, verraient Mathieu Béliard et Pierre Rondeau, elles se diraient que c'est forcément intéressant et elles achèteraient le produit financier. Non, 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 c'est une arnaque. Ne faites confiance qu'aux plateformes et produits reconnus par l'AMF.
D'ailleurs, on est journaliste, on fait pas de publicité.
En plus.
Faut le préciser. Cela dit, si Pierre me donnait un conseil, je l'écouterais. Si moi, je vous donne un conseil financier, même le vrai Mathieu Béliard, fuyez. Bon, le trading, c'est une pratique qui intéresse de plus en plus de Français, qui est en plein boom.
Oui, c'est vraiment en plein boom. Hein. Sa démocratisation a été extrêmement rapide, tout comme sa digitalisation. L'achat d'actions, d'obligations était jusqu'ici une activité réservée aux professionnels des salles de marché. Maintenant, avec un simple téléphone, n'importe qui peut passer des ordres et acheter des titres. On compte aujourd'hui 3,8 millions d'investisseurs particuliers et 780 000 nouveaux investisseurs ont fait leur entrée sur les marchés en 2025, en augmentation de 51% par rapport à 2024. Et de plus en plus de jeunes passent par les réseaux pour se renseigner et se lancer dans l'aventure. C'est en plein boom. Donc oui, forcément, ça attire les arnaques.
Bon, évidemment que ça attire des arnaqueurs. BitKelTrade, hein, c'est le nom de cette plateforme dénoncée par l'autorité des marchés financiers. J'allais dire en parlant d'arnaque, non, quand même pas. Le prix des carburants.
Le prix des carburants, c'est sérieux, c'est concret, c'est carré. Le samplon 95 et le gasoil, eh bien, ça augmente. 2,18€ le litre, 2,018€ le litre pour le samplon 95. 2,231€ pour le gasoil. Le baril de pétrole, lui aussi, augmente à 91,94€. Et le gaz à 63,345€ en augmentation, lui aussi.
Bon, eh ben, à chaque fois, je dis la même chose après ces chiffres du prix des carburants. On a besoin de se détendre. Et pour ça, il y a Arnaud Demange.
Comme à chaque fin du mois de juin, le sondage est sorti. Avec qui les Français voudraient-ils partir en vacances ?
Eh oui, en politique. Alors, roulement de tambour, the winner is numéro 1 avec 32%, Jordan Bardella. Et tout en bas de la liste avec 4%, Bernard Cazeneuve. Mais pourquoi ? Pourquoi ? De méchant ? Macron est à 13%. Alors, 13% des Français veulent que Macron parte en vacances avec eux. Et 87% voudraient qu'il parte en vacances tout court et voilà. Définitivement. Gérard Larcher est en bas du classement. Bon, bah, ça, c'est normal, hein. Il y aura un buffet à volonté au Club Med. Tu te lèves 10 minutes après lui. Bah, t'as plus rien à bouffer. En tout cas, moi, je sais avec qui Apolline rêve de partir en vacances. François Bayrou.
Ah oui, tiens.
Parce qu'avec lui, tes vacances ont l'air de durer 2 ans.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait ce soir, François? Madame de Malherbe.
Oui.
Ce soir.
Oui.
Plusieurs possibilités.
Ah oui, d'accord.
Sont sur la table.
Mm-hmm.
Pour passer la meilleure soirée possible.
Oui, oui, oui.
Mais il ne faut pas se précipiter. Oui, mais donc, on fait quoi ? On fait un resto, on fait... Madame de Malherbe.
Oui, vous pouvez m'appeler Apolline.
Vous me parlez d'un restaurant. Vous dites resto pour aller...
Non,
plus vite.
C'est bon.
Je le comprends.
Ah,
non, mais alors quoi ? Un mini-golf, un bar, un karaoké, du vélo, quoi ? Prenons les choses une
non.
par une.
Non,
putain, non. Allez, c'est quand la rentrée. Les enfants, on va au restaurant. Les enfants. Arrête d'embêter ta sœur, toi, et enlève ton bonnet de bain, t'es ridicule.
Mais je ne suis pas votre enfant avec un bonnet de bain. Je suis Éric Ciotti, le maire de Nice.
Arnaud Demanche, que vous retrouvez quand vous le souhaitez en podcast. Et vous savez quoi, je regarde, on est jeudi maintenant, je peux vous le dire, à partir de lundi en direct, bien entendu, sur RMC. Il est 8h27 dans un instant, la météo et le journal. Et puis, la deuxième vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée en France, une sécheresse record, une mortalité aussi que l'on souligne ce matin, et une écologie politique qui n'a jamais paru aussi divisée. Delphine Bateau, députée Génération Écologie, candidate à la présidentielle, l'invitée d'RMC à 8h35. À tout de suite. Il est 8h28 et on se réjouissait de la fin des vigilances canicules hier. De nouvelles vigilances qui arrivent pour orage cette fois.
Eh oui, c'est la suite logique hein, avec ces fortes chaleurs, les orages qui vont arriver sur le sud-est aujourd'hui. Donc vigilance orange sur l'Isère, Drôme et Ardèche à partir de 15h cet après-midi hein, jusqu'à minuit. Et c'est surtout les forts cumuls de pluie hein, qu'on craint sur le sud-est, surtout sur des sols très desséchés. Risque de grosses grêles également. On va vraiment avoir une succession de très fortes averses hein, tout au long de l'après-midi et dans la soirée. C'est beaucoup plus calme sur les autres régions. Il y aura des éclaircies, il y aura quelques nuages, quelques averses aussi, hein, surtout vers les Pyrénées et toujours un petit peu de vent sur le nord-ouest. Les températures, ça y est, elles ont bien baissé là, vraiment, on respire 30 degrés pour cet après-midi à Marseille, 32 à Perpignan, il fera 27 à Lyon, Nancy, 26 à Bordeaux ou Grenoble, 25 pour Paris, 22 à Lille et Brest. Et puis, ça n'est pas terminé des vigilances puisque pour demain matin, on a une vigilance orange sur les deux départements Corse. Il faudra être extrêmement attentif à la situation demain puisqu'on attend de grosses rafales de vent jusqu'à 120 voire 150 km par heure. Donc situation vraiment à surveiller pour demain matin.
Il est presque 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. 1243 décès en trop. Les autorités ont analysé la surmortalité pendant la canicule de juillet. Derrière les chiffres, la réalité du terrain. Témoignage d'infirmiers et de conseillers funéraires débordés dans un instant. Des plaintes bientôt déposées. Des commentaires ignominieux après un meurtre horrible. Ce sont les mots sur RMC de l'avocat de la famille de Sonia Bellina. Cette tiktokeuse retrouvée morte calcinée dans le Gard. Et puis les Britanniques vont retrouver leur prince et leur princesse. Harry et Meghan vont rentrer au Royaume-Uni en évitant soigneusement la famille royale.
Des décès en excès au mois de juillet.
1243, nous dit Santé publique France, entre le 5 et le 22 juillet, soit la période de canicule. L'autorité sanitaire doit encore attendre que les scientifiques fassent clairement le lien, mais d'autres le font déjà, car ils l'ont vécu, les soignants, les pompes funèbres, notamment dans les zones les plus touchées, Tiffaine Dubuard.
Parmi les régions les plus concernées par cet excès de mortalité, les Pays de la Loire, plus 236 décès. Bruno est conseiller funéraire à Blain, en Loire-Atlantique. Pendant tout l'été, ses pompes funèbres étaient saturées.
Les très fortes chaleurs ont été vraiment le coup fatal. Les premières vagues ont déjà fait beaucoup de dégâts chez les personnes âgées. On est arrivé à des délais de crémation qui approchaient presque les 15 jours.
Le conseiller funéraire l'atteste sur plusieurs certificats de décès. La cause de la mort indiquée était la déshydratation, une surmortalité. Mortalité est également remarquée dans les hôpitaux. Au CHU d'Angers, un semi-remorque réfrigéré a dû être utilisé comme chambre mortuaire, explique Benjamin Delru, infirmier et représentant syndical FO.
C'était pas un petit camion frigorifique, c'était un semi-remorque. On imagine que ça prend plus d'une dizaine de défunts en charge en plus. Pour nous, oui, ça signe que la canicule qu'on vient de traverser était une canicule importante.
Selon Santé publique France, lors de la deuxième vague de chaleur, le département du Maine-et-Loire où se situe le CHU d'Angers a enregistré un taux de mortalité 25% supérieure à la normale.
Et notez que ce bilan du mois de juillet, 1243 décès supplémentaires, c'est moins que les quelques 5700 décès enregistrés lors de la première canicule en juin. Les incendies, avec un point chaud ce matin, la Lozère, au moins 250 hectares ont brûlé depuis hier, un pompier a été blessé, deux hameaux évacués près de Prévenchères à la frontière de l'Ardèche.
Le corps de Sonia Bellina, formellement identifié hier.
C'est bien la tiktokeuse aux 260 000 abonnés qui a été retrouvée calcinée dans des vignes du Gard la semaine dernière. Peine immense pour sa famille qui, en plus, doit faire face à un torrent de moqueries et de commentaires insultants sur l'influenceuse. L'avocat des proches, maître Mourad Batik, était l'invité de RMC. Il ne laissera rien passer.
il y aura des plaintes qui seront déposées pour que ces individus soient eux aussi traduits devant des juridictions de jugement. Moi, je m'attendais à ce que nous fassions face à un élan de solidarité, d'empathie, qui accompagnerait la famille dans ce deuil très douloureux. Eh bien, pas du tout. Ce à quoi nous avons dû faire face, ce sont des messages odieux, ignominieux. Je ne me l'explique pas, la bêtise humaine semble ne pas avoir de limite. On réduit Sonia à une apparence physique. C'est absolument sidérant.
Une demande rare dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol en 2023, vous le savez, tué en marge d'une fête de jeunes. Les avocats des suspects demandent la récusation des juges d'instruction dans leur viseur. L'ajout de la circonstance aggravante de racisme anti-blanc, notion qui fait encourir à leurs clients la perpétuité et dont ils contestent la réalité scientifique.
Sébastien Lecornu sonne la riposte contre les cyberattaques
qui ont touché les impôts et l'éducation nationale ces dernières semaines. Les critiques sur l'impréparation de l'État pleuve et dans une lettre adressée hier au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le chef du gouvernement se veut ferme avec ses services, Romain Cluzel.
Le Premier ministre met la pression d'abord sur les ministères qui n'avancent pas assez vite sur les questions de cybersécurité à son goût. Sébastien Lecornu le reconnaît. Peu de ministères sont au niveau requis. Ce n'est pas acceptable, ajoute-t-il. Pression sur les ministères donc, mais aussi sur l'agence en charge de la sécurité numérique, l'ANSSI. Le Premier ministre réclame que certains de ses agents constituent une unité spécifique chargée d'intervenir en première ligne en cas de piratage. C'est pourtant déjà l'une des missions de cette agence, mais la réponse opérationnelle n'est pas assez réactive. Active et forte, estime Sébastien Lecornu. Une tentative de reprendre la main pour le chef du gouvernement face à ses failles de sécurité béantes. Un député qui suit de près ces questions de cybersécurité se désole. La multiplication des attaques, parfois peu sophistiquées, ça rend tout cela dramatique.
Romain Cluzel du service politique de RMC. François Fillon, officiellement suspendu de sa Légion d'honneur. Décret signé par Emmanuel Macron, paru ce matin au journal officiel. C'est la conséquence de la condamnation l'an dernier de l'ancien Premier ministre dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope.
They are back. Le prince Harry et son épouse Meghan vont faire leur grand retour au Royaume-Uni.
Et ce sont les médias britanniques qui l'annoncent. Le fils cadet du roi Charles III et sa femme, brouillé depuis 2020 avec la famille royale. Ils étaient partis s'installer en Californie, Célestin Bougère.
Harry rentre à la maison. C'est ce qu'on peut lire sur le site du Daily Mail. L'annonce a enflammé les médias britanniques depuis hier soir. Le prince Harry et Meghan prévoiraient de quitter les États-Unis d'ici la fin du mois pour s'installer dans une résidence non royale en dehors de Londres. Leurs deux enfants seraient même déjà inscrits dans une école britannique pour la rentrée scolaire. De son côté, le père d'Harry, le roi Charles III, a appris la nouvelle dimanche dernier selon l'agence britannique Press Association. Il se réjouit de voir davantage sa famille à titre personnel, mais le souverain précise que leur statut de simple particulier ne changera pas. Depuis 2020 et le Mexit, Harry et Meghan avaient décidé de prendre leur indépendance financière et de renoncer à leurs avantages liés à la couronne d'Angleterre. Ils n'ont donc pas l'intention de reprendre leur place dans la famille royale d'après les médias britanniques.
Les explications de Célestin Bougère pour RMC. Les familles des deux Français détenus au Togo inquiètent pour leur santé. L'un de ces deux réalisateurs souffre d'une maladie qui nécessite des soins. Selon Reporters sans frontières, ils ont été arrêtés au motif de fausses déclarations alors que leur société de production assure qu'ils étaient en règle.
On passe au foot avec le PSG privé de premier match au Parc des Princes ce week-end.
La pelouse trop dégradée pour accueillir comme prévu ce match contre Rennes. La première journée de Ligue 1, les Parisiens la joueront donc en Bretagne dimanche, championnat dont Paris est le maître incontesté avant même qu'il ait commencé. Les adversaires sont unanimes, Arthur Perrault.
Oui, le quintuple champion de France en titre et double champion d'Europe impressionne toujours les fans de Ligue 1.
C'est sûr qu'ils vont encore la gagner comme tous les ans. C'est pas drôle.
Paris va être là. Ils sont intéressés aussi par la Coupe d'Europe.
La saison dernière, Paris avait dominé le championnat de France en terminant premier avec 6 points d'avance sur Lens, 17 sur l'ennemi juré marseillais. L'entraîneur du club phocéen, Bruno Genesio.
Ça semble compliqué de les empêcher d'être champions. C'est une équipe qui est composée des meilleurs éléments, qui a le meilleur coach. Non seulement de France, mais sûrement un des meilleurs en tout cas au monde.
L'entraîneur monégasque Philippe Luis se montre lui légèrement plus mesuré.
They are the favorites. I'll be lying if I said no.
Ce sont les favoris. Je mentirais si je disais que non. Mais il est aussi difficile de continuer à gagner. Tout peut donc arriver dans le football.
But it's also difficult to keep winning. So anything can happen in football.
Le PSG, c'est seulement 6 défaites l'an passé. Reste l'équipe à battre cette saison. Mais à Rennes, dimanche soir, le club de la capitale aura l'occasion de déjà montrer qui est le patron.
Ouais, ce sera sans Nuno Mendes. Le défenseur parisien a été sanctionné hier de 3 matchs de suspension après son carton rouge reçu contre Lens au Trophée des Champions.
Les courses avec le Quintet à Deauville, 20h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 2, Lanaken. Son outsider, le numéro 14, José Fino.
Merci beaucoup, Victor Pourchet. C'était le journal. Il est 8h38. On accueille Vincent qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Alors Vincent, vous êtes président d'une association de pêche. Ce matin, on a accueilli les pêcheurs, les chasseurs. On a ce débat-là. Les conditions climatiques de l'été font que vous avez posé les cannes à pêche. Vous allez me corriger si je me trompe. Et les fédérations de pêche entretiennent les cours d'eau, les stocks, les populations de poissons. Et à côté de ça, on a le débat sur la chasse. Est-ce qu'il faut ouvrir la chasse dans les zones qui ont été ravagées par les incendies? Les chasseurs disent non. C'est ça qui vous a fait réagir, Vincent?
Alors en fait, tout d'abord, bonjour à tous.
Bonjour.
Effectivement, donc moi je suis en Charente-Maritime, d'accord. Donc nous, on est juste à ras de la mer, donc on connaît la question de la gestion de l'eau par rapport aux rivières et à l'évacuation de l'eau. Donc on côtoie aussi également en tant que pêcheur beaucoup les chasseurs. Hein, on a souvent des relations. Là, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est tout simplement que là, on va prendre des décisions au niveau de la chasse. Donc, pour ce que disaient vos collègues dans le sujet avant 8h30, ils vont avoir le droit de prélever des animaux, soi-disant, pour réguler, etc., etc.
Ouais.
Là, le problème, c'est que je pense que personne, enfin, en tout cas les autorités, ne se rendent pas compte dans l'état actuel qui est la nature.
Qui est fatigué, Vincent, la nature, les stocks de faune et de flore.
Ah ben là, c'est dramatique. C'est dramatique. Nous, là, depuis 3 semaines, on mène des actions pour essayer de sauver tout ce qu'on peut sauver en termes de poissons. Alors, par chance, on a quand même des belles surprises, il faut rester positif. On a récupéré beaucoup de juvéniles, beaucoup de petits brochets, de petites anguilles, beaucoup de gros aussi, mais c'est dramatique. Là, la situation, l'oxygène manque dans les rivières, l'amas de feuilles qui pourrissent au fond des rivières fait que ça crée de la pollution et des bactéries. On est dans une situation catastrophique. Là, nous, avec les agriculteurs, encore hier, vous voyez que les agriculteurs et les pêcheurs peuvent s'entendre très bien. On a mené une opération. Dans les forêts, dans les maïs, etc. On emmène des grosses gamelles d'eau pour essayer de leur donner à boire. Les animaux viennent. On a vu des petits chevreuils, des lièvres, alors que d'habitude, c'est très craintif. Mais ils sont complètement...
Du coup, ils s'approchent. En plus, ce sont des proies plus faciles, si je comprends aussi ce que vous dites, Vincent. Du coup, ils s'approchent, ils sont à la recherche de nourriture ou d'eau. Merci, Vincent. C'est un hasard hein, que les deux fédérations se retrouvent le même matin dans l'actualité, les pêcheurs et les chasseurs. C'était en même temps très connecté à ce dont on va parler aussi par la suite, l'état de notre nature, l'état de la vie sauvage. Dans un instant, le choix de la rédaction avec cette rentrée politique en ce moment. Les universités d'été, les insoumis dans la Drôme, les écolos à Grenoble et ce sujet majeur au cœur du débat. Est-ce que, à gauche en tout cas, cet été de bouleversement climatique va changer votre vote? On en parle tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h44 sur RMC, c'est l'heure du choix de la rédaction. La rentrée politique a sonné et comme chaque année, les partis organisent leurs traditionnelles universités d'été. Ça commence dès aujourd'hui, la France insoumise à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme, les écologistes à Grenoble. Objectif, préparation de l'élection présidentielle, bien entendu, dans 8 mois. Un gros sujet sur la table, le changement climatique. Euphémisme, hein, presque aujourd'hui, après un été hors norme, qui pourrait peser sur le choix des Français dans les urnes? Écoutez bien, c'est ce que vous avez constaté auprès d'électeurs en région parisienne, Alexandre Thibault.
Après un été à environ 45 degrés sous les toits parisiens...
J'aurais pu mourir. Des proches à moi auraient pu mourir aussi.
Amir a eu un déclic sur son vote en 2027.
L'écologie, ça a demeure et ça constitue pour moi maintenant le point d'ancrage principal. Moi j'étais engagé déjà à gauche, mais j'étais plus sur la redistribution de richesses, sur plein de thèmes. Et maintenant pour moi c'est le sujet majeur. Je peux pas le passer outre. Je pense que j'en aurais fait un problème annexe en fait, si ça m'avait pas touché autant. Voilà, mais là je veux survivre en fait. C'est ça ma priorité.
Le jeune homme penche plutôt du côté de la France insoumise pour son programme environnemental. Oriane, 26 ans, lit un livre dans un parc pour sortir de son logement étouffant. Elle ne sait pas encore pour qui voter, mais a des attentes.
S'il y a des candidats qui appuient plus sur ce côté écologique, créer plus d'espaces verts et faire que la ville soit plus vivable pendant l'été, pendant ces vagues de chaleur, je pense que je serai de cet abord-là. Le fait d'être là, sur place, à vivre cette chaleur, ça m'a un peu réveillée, disons.
Sans être aussi radical qu'Amir ou Oriane, Patrick, lui, a vu évoluer sa position cet été.
En 75 ans, on a connu des étés chauds, mais on n'a jamais connu ça, quoi. On n'est pas à fond dans l'écologie, mais on est obligé d'y penser parce qu'on est en plein dedans, quoi. Donc si personne ne fait rien, de toute façon, tout le monde va mourir, hein. Je pense que pour nos petits-enfants, nos enfants et tout, il faut faire quelque chose.
Le retraité en vacances habite dans le sud-ouest, non loin de la Gironde et du méga-feu de juillet.
Ah, ça fait réfléchir quand même, quand on croit que c'est l'orage qui monte, et puis en fait non, c'est la fumée des forêts qui brûle. On va essayer de voter pour des gens qui essayent de faire un petit peu quelque chose, mais bon, on attend de voir un petit peu déjà ce que les candidats vont proposer.
Des politiques qui devraient se saisir de l'urgence climatique, selon Guénaël Gault, qui gère l'Observatoire de la Société et de la Consommation.
Après les deux premières vagues de canicule, l'environnement et le climat étaient passés dans ces préoccupations de 6% à 23%.
Elle mesure les attentes des Français tous les 3 mois.
Et tout le monde vous disait depuis un moment qu'il était préoccupé par l'environnement, mais c'était une préoccupation qui était un peu lointaine. C'était un peu l'ours polaire où on voyait des incendies effectivement dramatiques en Californie, la banquise qui se réduit, mais depuis quelques petites années, c'est que ça, c'est devenu un sujet ici et maintenant. C'est quelque chose qu'on vit. C'est ça qui a changé en fait, c'est que la préoccupation s'est vraiment rapprochée.
Selon elle, le début des universités d'été des partis va permettre de voir ce qu'ils vont proposer ou non sur cette thématique de l'écologie.
Merci Alexandre Thibault. On parlait à l'instant des universités d'été, du changement climatique, la deuxième vague de chaleur la plus longue, enfin la première ex aequo en réalité jamais enregistrée en France, une sécheresse record et une écologie politique qui n'a jamais paru aussi divisée. Delphine Bateau, députée Génération Écologie et candidate à la présidentielle, est mon invitée dans une minute seulement sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h48 face au dérèglement climatique, l'écologie politique divisée. Bonjour Delphine Bateau.
Bonjour Mathieu Béliard.
Vous êtes députée Génération Écologie des Deux-Sèvres et candidate à l'élection présidentielle. Alors, on le disait, c'est la rentrée politique un peu aujourd'hui. Il y a les journées d'été, les universités d'été, les écolos à Grenoble, les insoumis à Valence, les communistes à Toulouse, même les anciens des LFI. L'après, ils seront à Tours dans quelques jours. Vous serez où pour cette rentrée politique? Vous avez le choix dans ces villes?
Chez moi, dans les Deux-Sèvres.
Chez vous, dans les Deux-Sèvres. La canicule, 7300 morts de plus depuis le début de l'année. La sécheresse des agriculteurs aux abois, une production entamée et des prix des fruits et légumes qui s'envolent. Et maintenant, il faut craindre aussi les orages, les fortes pluies, les coulées de boue, les inondations. Les crises climatiques se multiplient cet été, elles se succèdent. Les écolos devraient avoir le vent dans le dos et pourtant, il semble que l'écologie politique va être encore plus divisée que ne l'est la gauche en général.
Mais il y a un autre chemin en fait. Ce que vous évoquiez en fait sur cette rentrée des écuries politiques qui font un peu leur rentrée comme d'habitude, qui abordent les prochains rendez-vous démocratiques comme d'habitude, qui parlent d'elles-mêmes comme d'habitude, tout ça paraît hors du réel et tout ça n'a plus lieu d'être. Les Français sont, je crois, très lassés de ce système infernal des écuries politiques. Et moi, ce que je veux proposer, c'est un nouveau chemin, une nouvelle écologie en France, une écologie de gouvernement qui donne confiance et qui porte très clairement le projet de construire une république terrestre qui assure notre sécurité climatique et qui vise aussi quelque part à sauver la beauté de notre pays. Alors, et assurer à chacune et à chacun des conditions de vie dignes.
Les Verts eux-mêmes sont assez divisés. Vous l'avez forcément lu dans la presse ce matin, Yannick Jadot qui appelle à une sociale écologie qui se range plus naturellement derrière une ligne Glucksmann. On en a d'autres, Sandrine Rousseau par exemple, qui irait plutôt du côté des mélenchonistes. Marine Tourdelier qui, il y a quelques jours, appelait à tous se rassembler et à discuter. Vous l'avez répondu, Delphine Bateau, cet appel au rassemblement?
Oui, je lui adresserai ce matin ma lettre de réponse de mon mouvement Génération Écologie. Nous, on considère, si vous voulez, qu'on est entré dans le dur du changement climatique. Malheureusement, l'été 2026 risque de ne pas être un été hors norme, risque d'être un été comme les autres et comme ceux à venir, qui pourraient même être pires. Et donc, dans ce contexte-là, que les uns proposent de rallier les socialistes, les autres, la France insoumise, tout ça a un point commun qui est l'abandon de l'écologie. Et nous, nous voulons construire une nouvelle écologie en France, crédible, capable d'assumer les responsabilités du gouvernement, de prendre en charge tous les sujets.
Donc c'est une fin de non-recevoir que vous adressez à Marine Tondelier.
Très clairement, oui, nous ne sommes pas d'accord.
Vous avez Delphine Bateau, je sais que vous étiez...
Nous ne sommes pas d'accord avec une logique d'effacement et de disparition. Écoutez, dans le contexte historique dans lequel on est, dans le basculement qu'on est en train de vivre, imaginez qu'il n'y ait pas, lors de la prochaine élection présidentielle, qui est une échéance démocratique majeure, un bulletin de vote pour la cause du climat, pour la cause de la santé environnementale, pour la cause de la protection de la nature et pour la cause de la sécurité climatique. Oui, c'est à nos yeux inimaginable.
Et Delphine Bateau, je sais que vous étiez déjà en ligne avec nous avant cette interview. Vous avez entendu les Français qu'on a diffusés dans nos journaux, l'éco-anxiété, ces Français qui vivent cet été et qui aspirent à voter pour une forme d'écologie l'année prochaine. Là, ce matin, vous leur répondez, venez, suivez-moi, on va faire 5%.
Je leur dis, venez, suivez-moi, parce que les Françaises et les Français attendent une élection présidentielle féconde, dans laquelle des idées neuves et des forces neuves émergent, qui ne soient pas l'éternelle répétition des scénarios des précédentes élections présidentielles. Je leur dis qu'il existe un chemin dans la fidélité à l'histoire de France pour protéger notre sécurité climatique, pour renouer avec ce qui était au cœur, notamment de la... Vous savez, la Révolution française, elle avait choisi un symbole qui était celui de l'arbre de la liberté. En réalité, la question de nos paysages, de notre agriculture, de nos terroirs, c'est ce qui est fondamental dans l'histoire de notre pays depuis toujours. Eh bien, on doit renouer, en fait, avec cette histoire pour écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Et on a les capacités d'agir, mais ça suppose une écologie qui s'adresse à toutes et à tous, qui tire les enseignements des défaites électorales récentes qui ont été particulièrement sévères et qui donc ne soit pas dans l'éternelle répétition du jeu d'alliance dans lequel plus personne ne comprend rien.
Delphine Bateau, d'un mot simplement, je reviens juste sur une prise de parole qui était la vôtre il y a quelques jours face à une situation d'effondrement écologique, disiez-vous, vous reprochez au Premier ministre d'être en vacances, on rentre au travail, on n'est pas en vacances, c'était début août. D'un mot, ça change quoi d'avoir le Premier ministre chez lui en Normandie ou dans sa clim à Matignon?
Bah écoutez, j'ai été ministre, donc je sais une chose, c'est que quand les ministres sont en vacances, c'est pareil dans les administrations centrales et dans les cabinets ministériels. Le gouvernement a fait preuve de beaucoup d'impréparation par rapport à tout ce qu'on a subi cet été. Et encore là, maintenant, il y a des décisions à prendre. Je vois, par exemple, la ministre de l'écologie renvoyer au mois d'octobre un certain nombre de décisions d'adaptation au changement climatique et de sécurité civile, notamment en ce qui concerne l'eau potable. Ça ne me paraît pas être dans le réel des urgences du moment.
Merci beaucoup, Delphine Bateau, députée Génération Écologie des Deux-Sèvres, candidate à l'élection présidentielle. C'est en cette qualité que vous étiez avec nous ce matin aussi, Delphine Bateau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il est 8h55 et il vient de s'installer dans le grand studio d'RMC. Alain Marchal. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
C'est parti pour les GG.
Bien sûr, c'est parti pour les GG avec aujourd'hui Abel Boyi, l'éducateur, avec Joël Dagosséry, la coach de vie, et puis Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. On reviendra longuement, largement avec vous au 32-16 sur le cas de Patrick Bruel. Quand même, c'est le chanteur le plus populaire de France. Enfin, toujours, peut-être, je pense, si on se fie à ce qui se passe encore à la radio et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais Patrick Bruel, 32 plaintes et une tournée maintenue. Est-ce que c'est choquant ou est-ce que c'est normal? C'est la présomption d'innocence, c'est son métier, il est chanteur, il monte sur scène et il continue d'avoir des fans puisque on annonce que la tournée est complète. Donc vous venez réagir avec nous, notamment au 32-16. On reparlera aussi du Premier ministre qui reconnaît que peu de ministères sont au niveau en ce qui concerne la cybersécurité, c'est quand même un peu la honte. Voilà quelques-uns de nos sujets que l'on va évoquer. Le reste du programme, c'est dans un instant.